god.
Salut les dresseurs, salut les dresseuses, c'est Lou, votre journaliste Ouest France, expert en Pikachu, et je vous accueille dans notre podcast Le Poké Talk pour tout savoir sur Pokémon en compagnie de Malisson, le célèbre professeur lapin. Actu, décryptage, jeu rétro, on vous dit tout. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poké Talk, votre podcast dédié à Pokémon sur le mur des podcasts de Ouest France. C'est moi, Alex le serveur, de mon pseudonyme, Lou Lassinafoubert de mon prénom, toujours en compagnie de Mali Malisson, le professeur lapin, l'expert Pokémon sur YouTube. Comment ça va mon bon Mali ?
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi, Lou. Ça va, bon, ça va plutôt pas mal. Voilà. Si on met de côté les petits désagréments informatiques, ça va plutôt bien.
Écoute, ton son est plutôt bien, hein, malgré tes soucis d'informatique. Ça va. En revanche, de mon côté, alors, vous l'avez peut-être entendu, cet épisode est sponsorisé par les pollens, qui sont très agressifs, du coup, en ce mois de septembre, bien chaud. Donc, je parle peut-être potentiellement un petit peu du nez. Veuillez m'en excuser, mais, là, je peux pas trop faire autrement. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Bien évidemment de la première partie du DLC de Pokémon Écarlate et Violet qui est sorti, le masque turquoise. Ça y est, le masque turquoise est disponible. Mali, comme moi, avons pu y jouer. Eh bien, écoute, sans plus tarder, mon cher Mali, je te propose de plonger dans ce dossier et de parler de Septentria, du coup, qui est la nouvelle zone que l'on découvre. Alors, déjà, un point vocabulaire qui m'a un petit peu perturbé. Donc Septentria, qui vient de septentrional, etc. Donc le nord, comme c'est le contraire de méridional en gros. Et on apprend en fait dans le DLC que Septentria est à l'est de Paldea. Donc déjà ça m'a rendu fou. Pourquoi ils l'ont appelé Septentria si c'est à l'est ?
Peut-être le nord-est, on va dire. Hein.
Ouais, l'Alsace, la Lorraine, tout ça. Mais non, enfin, franchement, ça m'a un petit peu. Bon, il y a sûrement une explication que seule la Pokémon Company connaît ou comprend. Mais personnellement, moi, ça m'a un petit peu chagriné. Alors cette région, tout d'abord, au niveau de la taille, est-ce que t'as été surpris par les dimensions ? Est-ce que tu la trouves petite ? Est-ce que tu la trouves grande de ton côté, cette nouvelle région à explorer ?
Moi, je la trouve de correcte taille pour un DLC. Il y a de quoi explorer. Il y a pas mal de grottes, de petits endroits cachés. C'est vrai que ça, on en manquait un petit peu dans le jeu de base, mais oui, ouais. Pas mal de petits endroits un petit peu planqués. C'est plutôt intéressant. Et oui, alors oui, on en fait le tour assez rapidement, surtout si on le commence après avoir terminé l'aventure, c'est-à-dire avec la monture qui a toutes ses capacités. Ouais. Mais bon, dans l'absolu, il y a une montagne au centre, on peut grimper assez haut, on peut aller dans ses entrailles, c'est plutôt pas mal.
C'est vrai que du coup, le côté géographique ressemble pas mal à Paldea, puisque tu te retrouves encore avec une montagne en plein milieu de cette région, mais en même temps, il y a pas mal de zones un petit peu différentes forêts, des styles graphiques un petit peu différents. Ouah, ça va pas non plus révolutionner entièrement. Niveau dimension, on est sur un quart de Paldea. Un petit peu moins, je sais pas trop comment tu l'évalues.
Ouais, on doit être à peu près à ça, ouais, quelque chose comme ça.
En tout cas, elle est plus grande que ce que je pensais. Je pensais vraiment que ça allait pas être aussi grand que ça, donc c'était plutôt une bonne surprise. Et j'ai plutôt apprécié la géographie, même si elle reste assez simple. Et ce que j'avais beaucoup aimé, par exemple, si on compare avec Isole Armure à l'époque sur le DLC d'épée et bouclier, c'est que c'était très varié. Il y avait plein de coins vraiment différents, quitte à ce que ce soit pas très réaliste, avec des déserts un petit peu à côté de plages idylliques. Enfin, il y avait des choses sans grande cohérence, on va dire, géographique. Là, c'est un peu plus cohérent, mais peut-être que ça manque un tout petit peu de variété. Je sais pas, toi, comment tu l'as ressenti?
Ouais, je pense que t'as raison dans le sens où c'est moins varié, mais c'est plus cohérent. Et je pense que je préfère de la cohérence à de la variété à tout prix. Bon, là, on est dans une terre qui est très, qui fait vraiment penser au Japon, vraiment penser à l'époque Johto, tout ça. Et ça me paraît plutôt correct. Non, ça m'aurait peut-être dérangé s'il y avait eu vraiment du désert bien sec, des zones avec de la neige, je crois qu'il n'y en a pas du tout.
En même temps, bon, la neige avec l'extension Couronneige sur Épée et Bouclier, on a vraiment pas mal mangé. Et déjà, à Galar, il y avait déjà plein de neige, et il y a aussi beaucoup de neige d'ailleurs à Paldea, donc heureusement qu'on n'a pas eu une zone neigeuse, parce que je pense qu'on en aurait vite eu une overdose.
Et t'inquiète pas, il y en aura une avec la deuxième partie du DLC, une zone de neige dans un dôme sous-marin, voilà.
Ouais, mais alors, Bon, on va pas trop en parler parce que c'est pas le sujet, mais puis on a déjà parlé dans l'épisode précédent. Moi, cette histoire de biome divisé en quatre, franchement, ça m'enjaille énormément.
Ouais,
j'ai hâte de le découvrir. Ça va être assez original. Voilà pour le petit point géographique. Au niveau de la quête, donc en fait, on arrive à Septentria dans le cadre d'un voyage scolaire. Alors moi, ce qui m'a déçu déjà, c'est que les trois personnages qui nous accompagnent sur le voyage scolaire, c'est des élèves random de l'académie, donc soit de raisin ou de orange. Et c'est pas tous les potes qu'on se fait au fur et à mesure de l'aventure. Ça aurait été bien de ressortir. Alors peut-être pas effectivement Menzi, etc. Mais au moins, je sais pas, enfin des personnages avec un peu plus de caractère que trois PNJ random, quoi.
Oui, c'est vrai, ça m'a un peu déçu aussi. D'un côté, ce DLC, on peut le lancer, je crois, dès qu'on obtient la monture. On n'est pas obligé de terminer le jeu principal, donc c'est vrai qu'on peut pas non plus tabler sur les avancées du scénario. Il y a, je pense, un personnage en particulier qui serait un petit peu bizarre de voir là avec nous. Mais oui, je pense qu'ils ont mis des personnages vraiment génériques pour vraiment pas prendre la place aux deux nouveaux protagonistes qui viennent justement de l'Institut Myrtille.
Donc Cassis et Roseille. Cassis, surnommé Cass, donc le petit frère, Roseille, la grande sœur, deux caractères assez opposés, donc Roseille qui a un peu une tête brûlée, un petit peu agressive aussi, parfois un petit peu harceleuse, je trouve, avec son petit frère. Je trouve que c'est pas très sain, même si le grand-père la reprend, tout ça, je trouve que, ouais, par moments, ça m'a mis vachement mal à l'aise. Et le petit frère qui vraiment, qui se fait victimiser par tout le monde, au niveau de laquelle, j'ai trouvé ça limite un petit peu dérangeant, en fait. Je sais qu'il y a un parallèle qui est fait effectivement avec la légende d'Ogerpon, donc le légendaire que l'on découvre à Septentria, enfin l'un des quatre légendaires pour le coup. Mais je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais moi je trouvais que c'est peut-être la mise en scène. Enfin, en même temps, quand on reprend les premiers Pokémon, il y avait des choses qui aujourd'hui nous paraissent complètement aberrantes et qu'on reverrait plus dans les jeux d'aujourd'hui. Mais justement, connaissant un petit peu le virage de Pokémon avec un ton qui est quand même, on va le dire, beaucoup plus enfantin en général, là sur la thématique du harcèlement, il faut dire, je trouve que c'était pas forcément présenté d'une manière hyper saine.
Bah d'un côté oui, je trouve ça un peu too much aussi, parce que bon, personne parle comme ça à son petit frère, même si, je sais pas, elle agressive tout le temps, Roseille, on comprend pas trop. Ça m'étonne aussi que Cassis, on lui donne 14 ans, moi je pensais qu'il en avait 8
moins.
Ou 10.
Ouais, ah, oui, pareil, vraiment. J'ai été étonné.
Donc dans ce cas-là, Roseille, elle a quel âge? Elle a 18 ans, elle a 20 ans, je sais pas, parce que c'est vraiment une grosse différence. Mais tu as fini l'histoire principale du DLC ou
non,
pas?
Non, pas encore.
D'accord, donc sans spoiler, je pense que cette différence de caractère et de traitement, je pense qu'il y a un objectif derrière dans le deuxième DLC. Je pense que c'est fait pour nous mettre un petit peu dans une condition de situation et vis-à-vis de quelque chose qui pourrait arriver dans le deuxième DLC.
Bon, j'imagine que Cassis va devenir un pro énorme. Enfin, Cassis me fait un petit peu penser en fait à la figure de Timmy dans la troisième génération. Si tu te souviens bien, tu sais le petit gars qui était malade avec son petit Tarsal et tu le vois évoluer, etc. Et qui devient finalement un dresseur assez combatif. Mais Timmy était présenté comme un enfant chétif, malade, timide, etc. Mais il n'y avait pas cette notion de harcèlement autour. Donc je sais pas si. Enfin, je sais pas, ça me chatouille, ça me chagrine.
Pour Cassis, dans le courant de l'aventure, et ça se construit, c'est de plus en plus fort, il y a aussi une notion de rancœur et de colère qui se construit à l'intérieur de lui. Et contrairement à Timmy, qui lui, c'est un gentil garçon, Cassis, en fait, je sais pas comment il peut tourner, mais...
Ouais.
Mais voilà, si c'était une vraie personne qui était vraiment traitée comme ça en vrai, c'est une personne qui pourrait mal tourner, voilà.
Ouais, je dis pas que c'est mal fait après, mais c'est vrai que c'est surprenant et ça peut mettre mal à l'aise. Donc je me dis, est-ce que ça peut être bien compris par les jeunes joueurs et tout? Enfin, je sais pas, ça m'a fait poser des questions. Après, je trouve que le traitement est intéressant dans le sens où tu vois une évolution, même si j'ai pas fini, je vois une évolution, je vois les enjeux, et tu vois quand même que Roseille, par moment, elle le protège, etc., tout ça, mais c'est vrai que cette énorme maladresse, cette agressivité gratuite, moi j'ai envie de dire, non mais attends, calmos quoi, le grand-père il devrait être un petit peu plus ferme avec elle, je pense, enfin.
Oui, c'est vrai, le grand-père, ils s'en fout à moitié.
Oui,
en fait,
à part dire du calme, tu vois pas comment elle vient de lui parler quand même, sérieux, je sais pas, bref. Donc, Ça, c'est la rencontre que l'on fait. Et sinon, le voyage à Septentria, en gros, c'est une quête... c'est un voyage scolaire, quoi, tout simplement. Mm-hmm. C'est on répond, du coup, aux demandes du professeur Bria. Enfin, pas professeur, d'ailleurs, Madame Bria, qui est donc l'institutrice de l'Institut Myrtille, que l'on découvrira, du coup, dans le DLC 2, et qui a été envoyée ici. Et d'ailleurs, on apprend au passage que l'Institut Myrtille se trouve à Unis. Ça, on en reparlera en fin d'émission, mais évidemment... ça ouvre plusieurs portes. En termes de quêtes, au niveau des objectifs, bon, c'est des quêtes classiques de FedEx, voilà, un point A, un point B, etc. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce DLC.
Non, rien de révolutionnaire, mais bon, ça se fait plutôt bien, ça se parcourt bien, on peut dire que c'est peut-être un peu trop court, mais je trouve que ça, on va dire, la durée de vie de l'histoire principale vis-à-vis de la taille de la Terre, c'est plutôt bien compatible. Il y a certaines zones qu'on visite pas trop, donc ça nous incite à y aller de nous-mêmes, ouais. Après. Mais c'est plutôt correct dans ce sens-là. Et tu disais, juste pour revenir un coup sur Madame Bria, elle le dit d'ailleurs, c'est officiel maintenant que c'est une descendante de...
Adamantin. De qui tu dis ? Ah, Bruyé, oui, elle le dit, pardon, oui. J'ai dit Adamantin.
C'est quelqu'un d'autre, ça.
C'est quelqu'un d'autre, oui, j'ai oublié qui est descendante.
La photographe.
Ah oui, c'est vrai, oui, voilà, la photographe. Oui, de Bruyé, oui, elle le dit elle-même d'ailleurs. Donc, Bruyé, qui est l'auteur donc du livre écarlate ou du livre violet que l'on trouve dans chacune des versions, et dans lesquelles on trouve tous les Pokémon Paradox, et son rêve, alors c'est pas un spoil parce qu'elle le dit dès qu'on la rencontre, son rêve à Madame Bria, c'est d'aller dans la zone 0 de Paldea pour rencontrer du coup les Pokémon Paradox, et aller plus profondément pour rencontrer Terrapagos, qui apparemment se terre au plus profond de la zone 0. Je vous le dis tout de suite parce que on le dit vraiment dans les premières minutes du DLC. Mm-hmm. Et c'est intéressant parce que tu vois que même s'ils t'amènent ailleurs, bah ils ont toujours ça en tête et comme on l'espère, on aura sûrement, très certainement, les réponses à toutes les questions sur les Pokémon Paradox, sur la Terra Cristallisation, etc. Que j'ai vraiment envie de connaître parce que j'avais adoré ce dernier chapitre du jeu du jeu de base. Donc voilà, là clairement on sait qu'on va fermer la parenthèse sur les Pokémon Paradox grâce à Bria. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Ce qui est pas mal aussi, c'est que même sans avoir fini le jeu principal, on peut faire le DLC, ça nous spoile pas vraiment sur ce qui se passe. On va dire le thème Zone 0, Terra Crystal, il est vraiment très léger dans Septentria. Il y a un passage qui nous le fait penser, qui nous remet à ça, mais voilà, ça reste correct, et je pense que faire cette histoire-là en parallèle de l'histoire principale, ça passe bien aussi.
Alors, il y a également des petites activités annexes en plus de la quête principale, notamment le mini-jeu de la chasse aux monstres qui avait été montré du coup dans un trailer précédent. Bon, ça casse pas trois pattes à un Coraidon, j'ai envie de dire, ou un Psychoquack. Il faut récupérer, en gros, faut péter des ballons pour récupérer des baies, pour les mettre du coup dans des espèces de paniers, quoi, en sachant qu'il y a parfois des petits ronds gourmands, ronds grigous qui viennent dévorer dans les paniers. J'en ai fait parce que c'est obligé dans la quête principale, on te force à le faire à un moment, mais au-delà de ça, j'ai pas trouvé ça extrêmement intéressant, ni révolutionnaire, ni difficile, en fait. Enfin, je comprends pas trop l'intérêt. Je sais pas personnellement ce que t'en penses.
Oui, la même chose. Le souci dedans, c'est que c'est Pokémon Écarlate et Violet, donc avec ses ralentissements. Donc même là-dedans, on va dire c'est une course finalement avec pendant laquelle on se déplace à dos de monture, et vu que ça rame un peu, c'est pas très fluide. Pareil, les contrôles du véhicule ne sont pas vraiment optimisés pour être réactifs comme ça. Donc oui, je pense que le seul intérêt, c'est de le faire en équipe pour terminer le niveau 10 et avoir une belle récompense. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Je sais pas,
non,
peut-être pas la spoiler.
Mais du coup... Si je sais, ça y est. Oui, voilà, une belle récompense, bon. Ouais.
Oh, quand même, c'est un petit peu rare, quoi.
Oui, bon. Je sais pas. Personnellement, je cours pas après. Mais y en a qui courent après ce genre de récompense. Effectivement, ça peut être intéressant. Ouais, je sais pas. Je le ferai peut-être pour le sport, histoire de. Mais c'est pas ça permet aussi de gagner des mochi. Ça, c'est ce qui permet du coup d'augmenter les EV. Et on avait un espoir là-dessus. Enfin, personnellement, vraiment, j'avais un énorme espoir pour la gestion des EV, comme dans Épée Bouclier, comme dans Usul, s'il fallait. Mais là, c'est tout pourri. Tu m'expliquais justement les mochi.
Oui, alors il y a deux points de vue parce que Poképédia en français et Bulbapédia en anglais ne donnent pas la même réponse. Selon Poképédia, ça augmente un EV, un mochi égale un EV, et Bulbapédia, un mochi égale 10 EV.
10 EV, c'est l'équivalent en fait des protéines, etc.
C'est ça, absolument. C'est l'équivalent des protéines. Si c'est 10 EV, bon, pourquoi pas, mais après, si c'est pour se coltiner le mini-jeu, c'est
ouais,
quand même...
Bon, on n'a plus le côté je dépose mes Pokémon, ça se fait automatiquement, etc. Non. Je reviens, ils sont préparés. Ça, c'était quand même extrêmement pratique et ça facilitait la préparation des Pokémon. Je trouve qu'ils sont un peu moins sympas qu'avant pour faire ces petits Pokémon parfaits. Déjà qu'ils ont désactivé Synchro et maintenant que tu peux plus travailler les EV comme avant, ça devient difficile.
C'est dommage, sachant qu'en plus, ils ont rajouté beaucoup de CT qui permettent de récupérer d'anciennes attaques. C'est un petit peu contradictoire par moment.
Est-ce qu'il y a des retours d'anciennes attaques d'ailleurs, enfin de nouvelles anciennes attaques?
Oui, des CT qui étaient, enfin des attaques qui étaient données en Move Tutors en 4ème génération qui avaient disparu. Je pense à Onde Vide par exemple. Ça avait disparu depuis très longtemps et il y a Toxic qui revient. Toxic qui était plus une CT depuis la 8ème génération. On a Ébullition aussi, même si ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un certain travail d'équilibrage qu'ils ont fait. Puisque Ébullition.
Vas-y, excuse-moi, fini.
Ébullition est revenue en CT, mais elle est distribuée à beaucoup moins de Pokémon qu'à l'époque.
Mais c'est des techniques qu'on pouvait déjà apprendre dans le jeu de base, mais pas sous forme de CT, enfin que les Pokémon pouvaient posséder.
Ébullition, par exemple, dans le jeu de base, il était donné que à Volcanion.
Ouais, mais je veux dire, tu pouvais importer un Pokémon avec Ébullition.
Non, plus maintenant.
Ah, tu pouvais plus dans le jeu de base?
Parce qu'en fait, maintenant, quand tu transfères un Pokémon dans un jeu, eh bien, il obtient des attaques correspondant à ce jeu. Et vu que Ébullition ne faisait pas partie des attaques des Pokémon dans Écarlate Violet...
Voilà, ok, c'était ça ma question, effectivement. C'était pas seulement s'ils réapparaissent en CT, mais s'ils réapparaissent également dans le jeu, parce que, effectivement, toutes les attaques, comme tous les Pokémon, ne font pas partie du jeu. Et c'était ça ma question aussi, si en plus des anciens Pokémon qui reviennent, il y avait aussi des anciennes attaques, et pas seulement CT. Donc, ok, tu...
Oui, c'est ça, oui, il y a des anciennes attaques qui avaient plus ou moins disparu, qui étaient surtout très peu distribué. Bah, je pense à Toxic par exemple. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme attaque. Bah, Mitra Point aussi, que certains Pokémon pouvaient apprendre, mais qui n'est plus une CT depuis très longtemps. Donc vous voyez ce genre de petites choses qui reviennent et ça donne de nouvelles possibilités en combat. C'est plutôt cool. Et comme d'habitude, parmi les Pokémon qui reviennent, eh bien certains ont accès à de nouvelles attaques. On pense notamment à Pingoléon qui attrape Atterrissage. On pense à Torterra Exuviation, ou même Fouinard qui attrape Grand Nettoyage, l'attaque un petit peu bizarre qu'avait Famignolle.
Pas mal. Bon, en activité, sinon, il y a pas grand-chose à part cette chasse aux monstres, finalement. Mais t'as aussi des dresseurs masqués un petit peu partout sur la carte de Septentria à affronter pour des récompenses qui sont, ma foi, pas terribles.
Enfin... Oui, c'est ça, il y a 7 ou 8 dresseurs qui sont un peu planqués, qui ont des équipes assez correctes quand même, composées de 4 Pokémon, pas loin du niveau 80. Et il y a un petit personnage dans le village principal qui nous donne des récompenses à chaque adversaire battu. Et dedans, vous pouvez trouver des objets tels que la veste de combat, tout ça. Et la récompense finale, c'est un patch talent, donc pour transformer un talent en talent caché. Et c'est un objet relativement rare, donc bon, ça se fait tranquillement.
Ouais, bon, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'on aurait pu croire qu'on allait avoir plus de quêtes annexes, ça aurait pu être sympa.
Alors il y en a une, je crois que tu l'as pas faite, sans rapport avec la photographe, il y a une sorte de quête dedans.
Il faut capturer un certain nombre de Pokémon du coup de la région pour pouvoir l'activer.
D'abord c'est ça, mais ensuite elle te donne une quête assez sympa, une quête qui est un mix entre Legends Pokémon Arceus et Pokémon Snap, et franchement j'ai trouvé très sympa ça.
Donc faire des photos, j'imagine, un petit côté safari.
C'est ça, un côté safari en étant très discret pour pas se faire repérer, mais réactif quand les Pokémon bougent, et j'ai trouvé ça cool.
J'ai tellement adoré New Pokémon Snap que j'aurais voulu du DLC aussi pour New Pokémon Snap. Bien, alors, on l'a dit, il y a plein d'anciens Pokémon qui reviennent, une bonne centaine, si je ne me trompe pas. Beaucoup de Pokémon de deuxième génération, pas mal de cinquième également, je sais pas si t'as eu cette même impression.
C'est ça, et puis j'ai trouvé aussi pas mal de Pokémon de 4ème, tu sais, les évolutions que certains avaient obtenues, genre Yanma, Yanmega, il y en a plusieurs des comme ça, Terraclope, Noctunoir, et puis en fait c'est ceux qui me manquent à l'heure actuelle pour compléter le Pokédex, parce que le Pokédex il a 200 entrées dedans, 200 entrées, et comme à chaque fois qu'on remplit un Pokédex on a un cadeau, on connaît le charme chromatique, et là c'est un nouveau charme, et qui ma foi sera très très utile, donc... Donc je complète le Pokédex. Alors je sais pas si on le dit ou pas.
Allez, bouchez-vous les oreilles pendant 3 secondes. Il va nous le dire. C'est quel charme du coup ?
Je crois que ça s'appelle Charme Brillance. En gros, ça te décuple les éclats de Terra Crystal que tu obtiens en gagnant des raids. Donc au lieu d'en avoir un, deux qui se battent en duel, t'en as 10, 15.
Ah oui, alors vu le prix pour effectivement changer le type Terra Crystal d'un Pokémon.
C'est très utile.
Oui, carrément. Comme quoi ils ont quand même pensé à ça, c'est plutôt pas mal.
Oui.
Alors, il y a également donc des nouveaux Pokémon. Pas tant que ça, mais on va en parler. Il y en a beaucoup qu'on connaît, en fait, finalement. Il y a donc Pomme Dramour, nouvelle évolution de Verpomme. On va commencer par lui parce que il y a une chose assez étrange à son sujet qui a été découverte, c'est qu'il serait sensible à l'Evoluroc. L'Evoluroc est un objet tenu qui permet de booster les stats d'un Pokémon qui peut encore évoluer. Donc, potentiellement, Pomme Dramour pourrait encore évoluer. Est-ce que tu crois à cette rumeur qui se répand du coup sur le Pokéweb ?
Oui, j'ai tendance à y croire, puisque les data miners ont vu qu'il pouvait y avoir quelque chose, donc c'est pas juste uniquement un fantasme, on va dire. Et ensuite, d'un point de vue scénaristique, les personnes qui ont fini le scénario peuvent se dire qu'il y a des chances. Ce serait tout à fait logique dans la construction du scénario qu'on retrouve le deuxième DLC avec un Pomme Dramour qui aurait évolué. Ce serait assez curieux, parce que ce serait la première fois qu'une évolution alternative évolue différemment que les autres, puisqu'on a Dratatin et Pomme Drapi qui eux restent à leur stade normal, mais si on a Pomme Dramour puis autre chose, ça constituerait quelque chose de tout nouveau. Et ouais, moi franchement j'ai tendance à y croire, j'ai hâte de voir, même si ça pourrait être peut-être un espèce de bug oublié par les développeurs, parce que bon, ce jeu là n'est pas exemple de tout reproche. Donc, il faut quand même avoir ça dans un côté de la tête. On se dit, bon, ça peut peut-être être juste ça.
Moi, j'ai envie d'y croire et pas d'y croire en même temps. Je vais m'expliquer. J'ai envie d'y croire parce que déjà, je trouve que graphiquement, Pomme Dramour ressemble énormément à Verpomme, si bien que quand je l'ai découvert dans le trailer, pour moi, c'était une forme régionale. Je pensais pas que c'était une évolution.
On était beaucoup à penser ça, oui.
Bah oui. Et donc, du coup, je me dis, il a pas l'air fini, entre guillemets. Après, ce serait pas du tout le premier Pokémon qui a pas l'air fini. Ça, y a des Pokémon, tu te dis, j'ai l'impression qu'il va encore évoluer après, et en fait, non, pas du tout. Dodo Ala, par exemple, on pense à toi.
Ou Scovilin, par exemple.
Voilà, exactement. Enfin, il y en a plein. Donc, c'est vrai que, du coup, je me dis, il pourrait encore évoluer. Et en même temps, je me dis, quand on regarde les numéros du Pokédex national, ça veut dire qu'on aurait d'abord Pomme Dramour, tous les Pokémon du coup du premier DLC, et après l'évolution, enfin, je trouve que ça ferait vraiment trop moche. Alors, je sais qu'il y a que moi qui fais attention à ça, mais là, clairement, je trouve que... Oui, ça me paraîtrait presque absurde, en fait, dans le Pokédex national, qu'il soit pas à la suite, en fait, avec son évolution juste derrière. S'ils les ont imaginés en même temps, ils auraient pu au moins faire l'effort de glisser ça, quitte à ce que les gens soient spoilés en se rendant compte, du coup, de leur numéro dans le Pokédex national, mais peut-être qu'ils veulent garder la surprise jusqu'au bout et pas le faire. Mais ce serait moche. Enfin, voilà, je sais que c'est un peu débile, mais tu me diras, Serpentau et Ver de Fer seront pas à côté de Irfoudre et Chef de Fer et Entei et Terrakium. Donc bon.
On va dire que c'est un petit peu le défaut des DLC qui rajoutent des Pokémon au compte-gouttes et certains ont une place un petit peu bizarre, mais oui, ou par exemple les Pokémon de Legends qui sont apparus, qui sont un peu au milieu juste avant le jeu de Paldea.
Encore que tu te dis cela, au moins c'est cohérent, ils sont tous ensemble et il y a pas de, c'est pas comme si t'avais foutu Serbilin, tous les Pokémon et une nouvelle évolution de Serbilin qui apparaît juste après, tu vois. Enfin, là je trouve que s'ils savent déjà qu'il évolue, pourquoi ils le mettent pas ensemble dans le Dex National? Enfin, bon, peut-être qu'ils vont le faire quand même. À la rigueur, je préfère qu'ils sabotent le Dex National et qu'ils mettent quand même une évolution à Pomme Dramour, parce que j'adore Verpomme, j'adore ses évolutions et j'adore Pomme Dramour. Et je suis très curieux de voir à quoi il va ressembler. J'espère qu'il sera pas loupé. Je trouve que c'est dommage et pour les gens maniaques comme moi, un Dex National sacrifié, c'est douloureux quand même.
Je sais plus si ça t'avait marqué, mais moi le truc qui m'avait un peu surpris en 5ème génération, c'était Demeteros qui se retrouvait éloigné de Fulguris et Boreas. Jamais compris pourquoi.
Bah ouais. Bah parce que après tu fallait les deux précédents pour choper le troisième, mais c'est vrai que pourquoi oui. Ils n'ont pas mis avec. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque bon et puis Keldeo aussi qui était à part des trois autres, même si Keldeo est un fabuleux et du coup c'est un peu oui. Plus compréhensible. Mais bon, il y a plein de petits trucs bizarres comme ça. Bien, passons au Pokémon suivant. On a un trio de légendaires, c'est confirmé, ce sont des légendaires, ce sont les Adorami. Donc Favianos, Felicanis et Fortissimia, voilà, ça y est, j'arrive. Qui partagent tous le type poison, donc comme on pouvait le subodorer grâce à leur talent. Moi, leur design, on en a déjà parlé, hein, je trouve qu'ils ont un design assez assez particulier,
oui.
qui fait pas très Pokémon, bizarrement, je sais pas pourquoi, je vais finir par m'habituer, hein, puis après ça passera, mais ouais, c'est pas du tout un trio. Autant j'adore le quatuor des fléaux de Paldea, que je trouve génialissime, mais alors là, ce trio là franchement, il passera et il sera aussitôt oublié pour ma part. Je sais pas pour toi, mais
On va dire visuellement oui, mais on avait parlé, je crois que c'est tiré de la légende de Momotaro,
oui.
C'est ça,
oui, ça voilà. C'est génial en revanche.
Mais
Et puis la légende même, enfin dans le DLC, dans le Masque Turquoise, leur histoire, on va pas du tout la révéler parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça, pour le coup, j'ai vraiment vraiment apprécié.
Oui, moi aussi, je pense que c'est ce que j'ai apprécié le plus, cette partie-là du scénario. Et donc oui, les trois légendaires. Oui, je suis pas un grand fan de leur visuel. Par contre, en combat, le talent Chaîne Toxique, c'est excessivement fort. Surtout sur Favianos, qui a baston, si t'as 6 Pokémon, ben, ça tape 6 fois. Il y a 30% de chance à chaque coup d'empoisonner gravement, ben, généralement ça passe, très souvent. Mais il y a aussi un petit truc intéressant, ça c'est une rumeur qui est en train de naître petit à petit, c'est que quand on lit leur description Pokédex, on voit que de base c'était des Pokémon pas spécialement forts, pas spécialement intelligents, pas spécialement beaux, et que c'est leur chaîne toxique qui leur a donné ces pouvoirs-là. C'est leur description du Pokédex. Et de plus en plus, dans les données retrouvées, il y a un truc qui ressemble à un bout de chaîne, on sait pas trop exactement, qui est également présent sur le stand du marché dans le village. D'ailleurs, je crois que quand on appuie, quand on check le stand, on a un message qui nous dira « il y a un vieux bibelot poussiéreux ». Et donc, il y a une supposition qui dirait que peut-être ce serait un Pokémon, ce truc qui a donné le pouvoir aux trois Adoramis et qu'on le verra plus tard. Et on voit de plus en plus ça, parce qu'en plus il y a une image inutilisée qui a été retrouvée aussi. C'est une espèce, ouais, je sais pas, ça ressemble à une espèce de boule. Bon, ça, pour l'instant, c'est rien de plus. Mais si ça se trouve, eh ben, on aura peut-être quelque chose de plus fort à leur sujet et pourquoi pas.
Ah, ça pourrait être très sympa. J'aime bien quand ils travaillent comme ça, l'histoire. Ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'en termes de design, bon, voilà, on en pense ce qu'on veut. Mais en termes d'histoire, ils ont un peu plus bossé les trios et les légendaires de manière générale de cette génération que dans les précédentes où parfois on te balançait juste des Pokémon comme ça et pouf, voilà, c'est des légendaires, quoi. Ah, ok, super.
C'est vrai.
Là, ça fait plaisir. Autres Pokémon, ce sont des formes convergentes, comme on a vu avec Terracruel et Terracool, ainsi que Trio Pico et Topico. Je sais pas pourquoi je les donne dans les ordres, mais enfin si.
Grave.
Je sais pourquoi, parce que justement leur nom est dans le désordre par rapport aux Pokémon d'origine. C'est Poltchageist, qui est donc la forme convergente de Poltegeist, qui est lui-même l'évolution de Tefroi, sauf que c'est Poltchageist qui évolue en Tefroyable. Alors, je crois savoir pourquoi les noms étaient inversés. C'est que finalement, le contenant, c'est-à-dire l'espèce de petit pot de thé matcha pour Poltchageist et la théière pour Poltegeist, il évolue dans l'autre sens en fait finalement. Pour Poltegeist et Tefroi, c'est la tasse qui évolue en théière, et là c'est le pot de matcha qui évolue en tasse.
En tasse, c'est ça.
Donc Tefroyable. Et je trouvais ça assez intéressant en fait qu'ils aient gardé le nom mais qu'ils l'aient inversé pour renverser les styles. C'est assez cool et je trouve il est très mignon. Alors déjà j'adore Tefroi, j'adore Poltegeist. Et là cette petite forme, alors plan de spectre, on en bouffe énormément. On a déjà eu un plan de spectre déjà à Paldea là, avec Virovant et Virvoreur. Et là, un nouveau encore. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un double type que j'aime beaucoup personnellement. Mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de famille avec ce type-là. Oui. Mais en termes de design, trop mignon, je trouve. Tefroyable, il est adorable avec son espèce de petit chapeau spaghetti là, que je trouve trop mignon. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est un de mes préférés de cette gêne avec Pomme d'Amour.
Oui, le chapeau spaghetti, comme tu dis, je me souviens plus le nom exactement, mais c'est l'espèce de petit fouet, entre guillemets, qui sert à remuer le matcha pour, lors de la préparation. C'est ce qui lui sert de chapeau.
De chapeau.
Moi, on va dire, je suis... c'est pas vraiment un coup de gueule, mais depuis quelques temps, je suis un peu déçu des traductions françaises et effroyable. Bon, on perd totalement la référence au matcha qui est présente en anglais, en japonais. Ouais. Et là, je sais pas, je trouve que c'est... alors, peut-être que... Thé froid qui devient tcha froid, c'était peut-être pas joli, je sais pas. Alors, mais thé froyable, on perd.
Moi j'y croyais, moi je pensais vraiment que ce serait tcha froid.
Bah oui, ouais, on perd quelque chose parce qu'en anglais c'est sinistcha au lieu de sinisti, ouais. Donc c'est exactement pareil. Et là voilà, thé froyable, bon, je suis pas grand fan du nom. Il y aura un autre Pokémon après dont on parlera et dont je trouve la traduction vraiment mal inspirée. Mais oui, après thé froyable, c'est un Pokémon qui a un petit peu déçu quand il est apparu, pas visuellement, mais on s'est dit, bah, contrairement à Poltegeist, il n'a pas Exuviation, l'attaque qui permet d'être plus rapide, d'appeler plus fort, sauf que lui, il a un rôle tout autre. Et je pense, notamment en combat double, avec son talent qui permet de soigner les Pokémon qui arrivent, il pourra s'avérer très fort, parce qu'il a accès à une capacité qui s'appelle Mortier Matcha, qui est, si tu veux, bah, c'est une giga sangsue et qui peut brûler comme ébullition, à 30%. C'est très fort.
Oui, ouais, c'est quand même super sympa.
C'est ça, il a aussi ébullition, il a bien sûr feu follet, il a plein de talents pour brûler, il a des bonnes stats défensives. À mon avis, il peut être très pénible à affronter, peut-être plus en combat double, voilà, en soignant, en arrivant, mais je pense qu'il en a sous le coude, ou il en a dans sa tasse, je sais pas.
Il en a sous la tasse.
C'est ça. Et d'ailleurs, à propos de tasse, à l'instar de Tefroi et Poltegeist, il y a deux formes, il y a la forme, je crois, la forme médiocre, la forme exceptionnelle. Donc une bien plus rare que d'autres, et comme les Pokémon dont ils sont inspirés, la marque est très 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 légère, limite invisible, elle est en dessous, c'est un tout petit truc. Mais voilà, j'ai l'impression que dans les raids 6 étoiles, on a tendance à avoir bien plus souvent des marques exceptionnelles, ou alors vraiment j'ai eu de la chance, mais la première que j'ai faite... j'ai eu ça un petit peu comme les Famignoles avec un seul bébé, et ben en raid on les a bien plus facilement. Mais voilà, j'ai réussi à voir ça. Les tasses, je sais qu'on en trouve deux dans des grottes bien disposées dans l'aventure. Après, si on a besoin d'autres, je sais pas encore où les trouver. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. Et ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce Pokémon.
Alors moi, j'ai trouvé. Alors, j'ai même pas trouvé l'objet d'évolution de Pomme d'Amour. J'ai fouillé. Bon, peut-être pas assez. Ouais, peut-être pas assez. Je pense que j'ai pas assez fouillé. J'ai pas parlé au PNJ suffisamment.
En fait, c'est...
Je me suis dit, il y a un stand de Pomme d'Amour. Ça, comme on l'a vu dans les différentes bandes annonces. Donc, je me dis, je vais aller au stand de Pomme d'Amour. Et ça va être là. Et ben non, c'est pas là.
Pas du tout. Voilà.
Et donc me spoil pas. Hein. Je vais fouiller. Et pareil pour Poltegeist et tout. J'ai pas trouvé. Donc, faut vraiment que je fouille pour pouvoir trouver, parce que je veux mon Pomme d'Amour. Ça, c'est évident.
Pomme d'Amour, si tu trouves l'endroit, après c'est très facile parce qu'en plus on peut en avoir autant qu'on en veut.
Je me suis dit c'est au coteau pomme,
non, même pas.
Bah oui, voilà, tu vois,
c'est pas du tout là, en fait, c'est pas vraiment logique, mais voilà, c'est totalement pas là.
Bon, bah moi je sais que ce sera pas là, parce que je peux te dire, j'en ai ramassé des pommes, des pommes acidulées, des pommes sucrées.
Moi aussi, j'en ai avoir 15 de chaque, et je me dis, bah mince, qu'est-ce que c'est. Et puis après, je suis tombé sur le bon endroit, et j'ai dit, ah oui, effectivement.
Et c'était pas ça. Bon, la star de ce DLC, le Pokémon Star, évidemment, c'est Ogerpon, le mignon petit ogre, du coup, le monstre, entre guillemets. Très, très mignon, adorable, qui a 4 formes différentes, qui peut changer de type. Je le trouve très sympa. Après, en termes de design, je sais pas, il y a un truc qui me... Il est mignon, mais je sais pas. Est-ce qu'il fait pas Pokémon? Je sais pas. Est-ce que je deviens un vieux, entre guillemets, un vieux con, comme on dit, à faire C'était mieux avant? Enfin, même pas, parce qu'il y a des Pokémon que j'adore. Hein, par exemple, tu vois, je trouve que la dernière génération qui m'a vraiment, vraiment hyper emballé, c'était la toute petite génération de légendes Pokémon d'Arceus. Donc okay. C'était la fin de la 8e. C'était tous les Pokémon qui étaient reliés d'une manière ou d'une autre aux anciens et qui permettaient de retravailler dans un style différent. Enfin, je pense à Paragruel, je pense à Kaninos de Hisui, etc. Et là, tu me montres Ogerpon et voilà, les 3 Adorami. Bon, alors qu'à côté Pomme d'Amour et Poltegeist, je suis aux anges. Donc je sais pas, j'ai un kiff sur les nouvelles formes d'anciens Pokémon, les nouvelles évolutions d'anciens Pokémon. Et bon, bah après, stratégiquement, peut-être plus intéressant au Garpon. Je sais pas trop, toi, ton point de vue là-dessus.
Oui, est-ce que tu connais sa particularité ? Je parle pas du scénario, mais il a un fonctionnement bien à lui, en fait.
Je veux bien que tu m'expliques, du coup.
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ogerpon, je sais pas comment on le dit, on le connaît...
Au niveau de l'étymologie, je crois que c'est Ogerpon, donc tiré de l'anglais ogre, donc l'ogre, et pon, c'est le suffixe japonais, un peu comme chan, qui est mignon, un suffixe enfantin, pour désigner quelque chose de choupi, quoi. Donc, c'est l'opposé entre le côté monstrueux, mais en même temps affectif, tout ça, donc qui est un petit peu au centre, justement, de son histoire.
D'accord, ok, je vais noter ça dans un coin et essayer de le redire de la bonne façon. Mais en fait, l'image que l'on voit de lui avec le masque vert, en fait, c'est un masque parmi d'autres qu'il a. Il peut équiper plusieurs masques, donc il y en a 4 en tout, qui lui changent à chaque fois son type, son talent, et qui modifie le type de sa capacité signature. Alors ça s'appelle Masulian, je crois, et donc si t'as le masque feu, ça donne une attaque de type feu, ce genre de choses. Et en plus de ça, quand il équipe un masque, son Terra Crystal... est défini par le masque. Donc si tu mets le masque de la fournaise, ça sera forcément un terracristal feu. Et là, à ce moment-là, une fois qu'il terracristallise, son talent est enlevé, et ça devient le talent... je me souviens plus lequel. C'est un talent commun qui augmente une stat, qui dépend du masque. Par exemple, pour le masque feu, ça va être un niveau en attaque. Le masque roche, défense, je crois. Le masque eau, défense spé, quelque chose comme ça. Puis le masque plante, vitesse. Et ça donne beaucoup de possibilités, parce qu'un Pokémon feu-plante, il n'existait que la Miss Covilin jusque-là, et là, Ogerpon, masque de flamme, avec son talent qui lui augmente, qui lui donne à la fois un niveau d'attaque en Terra Crystal, et qui en plus booste encore plus ses attaques, ça donne quelque chose d'assez monstrueux, et vraiment un Pokémon très intéressant, alors prévisible, puisqu'on voit le masque qu'il a sur la figure, donc il ne peut pas te... tu peux pas te faire piéger avec ça.
Mais quand même très versatile.
Très versatile, oui, c'est ça.
Enfin, polyvalent, si on veut parler en bon français.
Ouais, c'est ça. Alors, les talents qui sont équipés ne sont pas équivalents. Avec le masque roche, t'es fermeté pour éviter de se faire mettre carreau d'un coup.
Terrible.
C'est pas terrible. T'as absorbe eau sur le type eau. Je crois que c'est acharné pour plante. Et puis je crois que c'est... mince. Pour le feu de base, c'est un talent offensif. Non, c'est pas sans limite, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il y a des possibilités. J'ai déjà vu des combats avec ça. Il peut placer la danse là, mais il peut se booster. Ça pique très très fort.
Et puis, alors la surprise, c'est un dernier Pokémon. C'est une forme pour Ursa King, donc Pokémon justement apparu dans Légende Pokémon Arceus, dont je parlais il y a 5 minutes. Ça, j'avoue, je l'avais pas du tout vu venir. Et je suis assez content d'ailleurs qu'ils ressortent des Pokémon de Hisui, parce que bon, ils sont... théoriquement, ils sont oubliés, ce qui n'empêche que ça, on voit justement la photographe qui se balade avec un Kaninos de Hisui. Bon, ok, d'accord. T'en vois d'ailleurs aussi un sculpté à Septentria, oui, sur des statues. Comme quoi, c'est pas vraiment des Pokémon oubliés, mais bon, c'est pas grave, c'est Pokémon, ils passent leur temps à réécrire un petit peu l'histoire du jeu. Et là, donc, une forme d'Ursa King qui fonctionne un petit peu comme comment dire, à chaque fois j'ai envie de l'appeler Amphinobi, mais c'est...
Shinobi
Oui, c'est Amphinobi en français. À chaque fois j'ai envie de l'appeler par son nom anglais, Greninja, mais non, c'est Amphinobi effectivement. Donc le Shinobi, donc l'Amphinobi de Sacha qu'on avait pu avoir en 7e génération, si je me souviens bien.
Grâce à la démo de Soleil et Lune.
Exactement. Et donc on pouvait juste avoir Shinobi, mais on pouvait pas faire évoluer il y avait aucun Pokémon qui pouvait se transformer en Shinobi en fait. Donc finalement c'était une sorte de forme alternative d'un Pokémon existant, et là ce Ursa King, c'est un peu pareil finalement.
C'est ça, en fait, c'est un Pokémon unique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toute une quête, comme tu dis, qui met en scène la photographe, qui a un lien avec Hisui. Et on nous explique pourquoi il y a un Ursa King qui est différent des autres, qu'est-ce qu'il fait là. Il y a des petites explications, donc niveau lore, pour une fois, ça se tient plutôt bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce Pokémon, vraiment... il n'y en a qu'un seul, faut le prendre comme un légendaire. C'est un Pokémon qui n'a pas du tout les mêmes statistiques qu'un Ursa King normal. Parce qu'Ursa King, c'est un Pokémon solide, très fort sur le physique et très lent. Et celui-ci, il est très fort sur le spécial.
Ouais, c'est attendu. En plus, vu son physique, c'est vrai qu'on ne croirait pas.
C'est ça, il est bipède celui-ci, il a un côté très costaud, très énervé. Et voilà, il est à fond sur le spécial, ce qui est assez rare pour des Pokémon type sol. Parce que des Pokémon sol qui tapent fort sur le spécial, ils ne sont pas si nombreux que ça. En plus, celui-là, il a une capacité signature, je crois que ça s'appelle Pleine Lune ou Lune Rouge, je me souviens plus en français. mais qui est l'équivalent d'un marteau mastoc de Forgelina. Ça tape extrêmement fort, mais on peut pas le lancer deux fois de suite. Donc c'est vraiment bien. J'ai vu des j'ai pas encore testé moi-même, mais j'ai vu des combats. C'est un Pokémon très lent, mais qui casse vraiment des bouches, comme dirait l'autre. Et surtout, j'aime beaucoup ce principe de prendre un Pokémon existant et de le modifier pour en faire quelque chose d'unique. Et naturellement, j'aimerais qu'il refasse ça, et pourquoi pas qu'on trouve un jour un Magikarp unique qui, lui, ne soit pas une chaussette. Ça, ce serait génial.
Bah, j'aime bien l'idée. Après, le fait qu'aucun Oursa Ring ne peut évoluer du coup en 7 Oursa King, malgré tout le lore, etc. Oui, je comprends bien qu'il est spécial dans tous les sens du terme, du coup. Mais ça m'embête quand même. Enfin, j'aime bien le principe, puisque finalement, ce que tu décris, donc c'est un Pokémon qu'on a repris, dont on change complètement les stats et on change l'aspect. C'est ni plus ni moins que les formes paradoxes, en fait, en quelque sorte. Donc,
c'est un petit peu l'idée, sauf que ça, c'est un vrai Pokémon. Là, on parle plutôt des... je sais plus comment ça s'appelle. On peut pas dire que c'est une évolution convergente, parce que c'est pas vraiment une évolution, mais c'est un peu... Bah, c'est vraiment un Pokémon qui s'est adapté à son nouveau chez lui et qui était soumis à une...
C'est
à
les, formes, de les formes régionales telles qu'elles étaient au début, en fait.
Voilà, c'est un petit peu l'idée, mais ça reste quand même un Oursa King. Moi, j'aime bien le principe d'étendre l'univers d'un Pokémon comme ça. Et d'ailleurs, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là aussi, je suis vraiment pas fan du nom qu'ils l'ont trouvé en français. Oursa King, ça a aucun sens. Les autres noms sont tous basés sur la lune. Pokémon basé sur une lune rouge. Ça s'appelle Oursa Luna en anglais, et je sais pas pourquoi on a calé Oursa King. Ça,
c'est pour totalement... le jeu de mots avec Oursa Ring. Moi, je trouve ça pas trop mal, le côté puissant Oursa King.
C'est pas du tout quelque chose qui est mis en avant par le Pokédex ni par son univers. Et je sais pas, le Oursa Luna, je trouve très beau comme nom.
Oui, c'est
vrai. Je sais pas pourquoi on a changé.
Justement, ça faisait peut-être moins, ça sonnait peut-être moins puissant, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'en français ça sonne plus doux, tu vois, Luna, machin et
après
tout.
Après aussi, je suis un petit peu psychorigide, hein, un Pokémon qui s'appelle Oursa King, j'aimerais qu'il puisse s'appeler Oursa Queen selon le genre, mais bon.
Voilà, comme Nidoking.
Voilà. Et pas comme Galeking, malheureusement, mais c'était il y a longtemps. Mais oui.
Galequeen.
Voilà.
Est-ce que dans toute cette. Je crois que j'ai oublié personne, hein, il me semble, normalement, de mémoire.
Non.
Est-ce qu'il y a un petit préféré pour toi qui se dégage dans cette liste?
Bah moi j'aime bien Oggerpon et Oursa King, les deux. Oggerpon avec son masque de feu principalement, et Oursa King, ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une gueule, comme dirait l'autre. J'aime bien ce qu'ils ont fait.
Alors moi c'est Pomme d'Amour, hein, comme d'habitude, mais c'est vrai que sur le type, j'aurais mis le type fée quand même, dragon fée ou plante fée, comme ils veulent, avec ce côté très sucré, hein. Je rappelle que le sucre est vraiment associé au type fée, hein, dans les Pokémon Charmilly, Cub Canaille, etc. Donc c'est dommage qu'ils aient loupé cette occasion, mais bon.
Ils auraient pu en faire un dragon fée double type qui n'existe plus, l'absence de Mega Altaria, donc ça aurait pu être très bien.
Bah oui, c'était l'occasion. Qui sait s'il évolue, peut-être qu'il évoluera en dragon fée, hein. ça pourrait être
bien, ouais.
Avec encore plus de sucre, moi je vote pour. J'espère que l'évolution sera pas loupée, parce que sinon je vais être pas content. Est-ce que c'est assez pour toi ce nombre de Pokémon, ou est-ce que tu trouves qu'ils ont été un petit peu radinous? C'est plus qu'à Iso l'armure.
C'est plus qu'Iso l'armure, mais oui, on en aimerait toujours un peu plus. Moi, on va dire ce qui me manque, c'était le cas dans le DLC d'épée bouclier, c'est le cas aussi maintenant. C'est tout simplement des Pokémon locaux qui n'aient aucun rapport avec personne et qui ne soient pas des légendaires. Des petits Pokémon qui évoluent, dont on n'a jamais entendu parler. Ça aurait été cool, comme ça aurait donné un petit peu plus de grain, de singularité à cette région de Septentria. Parce que là, finalement, on se promène, c'est que des Pokémon qu'on a déjà vus et revus. Et je trouve ça un petit peu dommage, à part Pomme d'Amour et Pochageist. Mais s'ils avaient pu avancer, sortir un petit rat... une biche, ce que tu veux, quoi, mais ça manque un peu.
Alors, j'en demandais pas beaucoup plus non plus, mais c'est vrai que une quinzaine, une vingtaine, à peu près comme on avait à Hisui, quoi, justement. Hisui, il n'y avait pas énormément, mais je trouvais qu'il y en avait suffisamment pour que ça puisse changer un petit peu. Alors c'est vrai qu'on aurait voulu encore plus, certes, mais là, c'est pas beaucoup.
Il y a des rizières, il y a beaucoup de lanternes, c'est un univers assez, on va dire, assez traditionnel, et je pense qu'il y aurait eu moyen de faire des petits trucs sympas en faisant des petits clins d'œil à la culture japonaise, et c'est un petit peu dommage.
Et même s'ils veulent pas faire de nouveaux Pokémon, ou davantage de nouveaux Pokémon, c'est vrai que rien qu'avec les formes, oui, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de formes du coup à Paldea, bah, ils auraient pu faire des formes de Septentria, quitte à prendre 3 Pokémon, voilà, enfin 3 familles on va dire, les 6 Pokémon, mais ça aurait été sympa. C'est dommage qu'ils aient pas osé. Peut-être une fois prochaine, mais c'est occasion manquée, moi je dirais.
C'est ça. Et d'ailleurs, juste avant de terminer, tu parlais de forme. Et bien vraiment, Septentria est compté comme quelque chose extérieur à Paldea, parce que si tu fais des œufs de Tauros, que tu les fais éclore en Septentria, bah ça sera des Tauros normaux et pas Tauros de Paldea. Voilà.
Ah, c'est intéressant. Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est pas mal.
Voilà, ça ne marche qu'avec Tauros, vu que c'est la seule forme de Paldea, forme régionale pure. Mais voilà, j'aime bien l'idée.
Ouais, c'est. Et Axolotl, du coup ?
Bah, Axolotl, j'imagine. Ah, bah si, je dis des bêtises.
Il est
ouais,
bleu, parce que tu le croises de façon dans les rizières, Axolotl.
Bah, oui, c'est vrai qu'il y a Axolotl. Bah, je pense que ça doit être pareil que Tauros.
Ouais,
en
toute logique, oui, parce que déjà, tu croises le bleu dans les rizières. Oui. Donc, voilà. Petites améliorations quand même dans ce DLC qui ne vient pas tout seul, enfin il ne vient pas avec grand chose côté amélioration. Il y a le chargement des boîtes PC qui est plus rapide qu'avant.
Oui, enfin.
C'est agréable. C'était vraiment d'une lenteur.
Ah, ça aura mis presque un an, mais bon, mieux vaut tard que jamais.
Oui, alors par contre, au niveau des vêtements, ils n'ont rien fait encore. Je ne sais pas si tu as vu, hein, j'ai voulu acheter à la boutique des nouveaux vêtements, mais le temps qu'ils apparaissent, c'est pas possible.
Ouais. Oh. Non, ça. Ça, moi aussi, j'ai cru un moment et non, pas du tout. C'est vrai que c'est dommage.
Bon, et sinon, rien d'autre en amélioration. On attend quand même le vol pour la monture dans le DLC 2, hein, du coup, dans le disque Indigo, mais sinon...
Alors, si, il y a un tout petit truc. Bon, c'est un peu léger. C'est l'affichage de la carte. Maintenant, on peut bloquer la carte et la minimap de façon à ce qu'elle ne bouge pas, que ce soit juste le curseur qui bouge. Parce que parfois,
non,
la
déjà
carte pivotait, c'était un peu...
Ah bon c'était... Oui, c'était déjà le cas.
Ah bah,
c'était
ça
déjà le cas parce que j'ai changé tout de suite dès que j'ai commencé le jeu Écarlate et Violet. C'est la première chose que j'ai changé parce que moi, je me perdais dans la carte qui bougeait tout le temps.
Ah d'accord, bah moi je pensais que c'était récent, donc...
C'est vraiment dans le jeu de base. Non, en revanche, il y a une vraie petite nouveauté que je trouve très mignonne, mais qui ne sert strictement à rien, c'est l'affichage des bords du Moti
oui.
Smart, qui maintenant reprend la couleur de tes coques. C'est vrai qu'ils auraient pu le faire avant, parce que la coque servait à rien, parce que tu la voyais à peine, quoi. Là, au moins, ça te fait un petit affichage personnalisé, ce qui est pas mal. C'est cosmétique, mais on va dire, c'est mignon, quoi.
Mm-hmm.
Ça change tes menus. Voilà, c'est
voilà.
Ça casse pas trois pattes à un psychoquac, mais ça se prend. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on attend maintenant le disque Indigo. Alors peut-être pour conclure, est-ce que t'as bien aimé du coup ce DLC, le masque turquoise, de manière générale ?
Oui, j'ai passé un bon moment. J'ai pas encore tout à fait terminé ce que je voulais faire dedans, mais voilà.
Si tu compares du coup au DLC d'Épée Bouclier ?
Oh, par rapport à Isolé Armure, c'est bien meilleur. Déjà l'intrigue, Isolé Armure, il n'y avait pas vraiment d'intrigue, c'était bon, on fait trois étapes et puis tu deviens le maître des arts martiaux et tu repars avec ton Chifourse. J'exagère un petit peu, mais c'était un peu ça. Là, on a quand même une petite histoire plutôt bien menée, avec quelques rebondissements. Bon, ça reste du Pokémon, c'est pas du grand scénario, c'est pas du Molière, mais... Ça reste bien, c'est joli. Malheureusement, il y a quand même des. J'ai joué sur ma télé tout à l'heure. Il y a des zones, notamment en cas de pluie, les ralentissements sont horribles. J'ai l'impression que c'est encore pire que dans le jeu de base par moment. C'est difficile à vivre. Hein. On se dit mince, vivement la prochaine console et on espère qu'elle va doper tout ça.
Ouais, mais il n'y a pas que la console, il y a les développeurs aussi qu'il faut doper là.
Oui aussi, oui. J'avoue que c'est pas les torts sont partagés, mais oui, non, j'ai passé un bon moment. Alors, on va nous dire le prix est un petit peu cher pour ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous payez le DLC, il y a ce DLC là et celui qui va sortir. En fait, on peut pas les acheter séparément, c'est tout. Donc en gros, là, vous n'avez que la moitié du contenu, voire même un peu moins si c'est comme le précédent DLC. Là, à mon avis, en plus, comme on aura les réponses au sujet de la zone 0, je pense qu'on aura un deuxième DLC un peu plus conséquent, comme ça avait été le cas avec Couronneige. Donc là, ouais, je sais pas, on a peut-être 35-40% du contenu, donc à la limite, si ça vous dit toujours pas, attendez que le deuxième sorte pour vous faire une idée. Mais voilà, c'est un bon petit moment, ça se fait assez vite, ça permet de remettre le dé dedans, puis c'est cool.
Ouais, alors après, en termes de géographie, même si Isolé Armure était plus petit, je me demande si je préférais pas un petit peu Isolé Armure quand même pour la géographie. Oh.
Ah ouais.
Ouais, je te dis, il y avait des choses qui me plaisaient bien, les grottes d'Isola Armure, la forêt, toutes ces ramifications, les falaises, le lagon, enfin. Bon, j'ai pas encore suffisamment exploré peut-être Septentria, mais c'est vrai que je sais pas, c'est pas assez dépaysant, je trouve. Y a un petit truc qui, ouais, je sais pas.
On va dire que je suis peut-être pas objectif là-dessus parce que je déteste tout ce qui se ramène à la plage, au tropique, tout ça. Et donc Isola Armure, déjà ça a joué contre lui. Et c'est aussi pour ça que j'ai détesté Soleil et Lune. Mais bon, après ça c'est personnel.
Alors, Soleil et Lune n'avait pas que ça comme défaut de toute façon.
Non.
Alors bien, le disque Indigo, en tout cas, ça sortira cet hiver et on retournera à Unis, du coup, en quelque sorte, puisque il se trouve que l'Institut Myrtille se trouve dans les eaux près d'Unis. Forcément, ça ouvre des portes sur la suite, sur un légende Pokémon à Unis, sur le remake, évidemment, de la cinquième génération. Unis, je le rappelle, c'est la région de Noir et Blanc, les versions de la cinquième génération. Une des meilleures versions, pour pas dire, la meilleure génération, peut-être, potentiellement, enfin, à mes yeux, c'est ce qui s'en rapproche, en tout cas, avec aussi Noir 2, Blanc 2. Mm-hmm. Comment ils vont gérer justement l'existence d'une suite, la seule suite officielle en quelque sorte, hein, même si Argent et Or sont en quelque sorte s'inscrivent dans la continuité des mm-hmm. premières générations. Je suis très curieux comment tu le. Enfin, clairement, ça t'appelle du pied, ça, quand Madame Bria te dit oui, alors Unis, tout ça et tout.
Oui,
c'est évident.
C'est des appels de phare, c'est des gyrophares qui clignotent. Oui, c'est sûr que ils nous mettent plein d'indices là-dessus. Alors. Peut-être que c'est leur façon pour nous dire, on retourne sur Unis d'une certaine façon, on vous fera pas de remake, mais voilà, il y aura toujours ça. Mais je vois bien ça comme une introduction vers une période qui sera particulièrement axée sur ces jeux-là. Je sais pas, ça pourrait peut-être être les jeux de toute fin de Switch ou de tout début de nouvelle Switch, nouvelle console, parce que bon, ce qu'il faut se dire, c'est que la Switch aura 7 ans l'an prochain. Ouais. Et les bruits sont de plus en plus forts au sujet d'une nouvelle console qui arriverait peut-être l'année prochaine, peut-être début 2025, on sait pas. Donc oui, à mon avis, de toute façon c'est pas un secret, la Switch est plutôt sur la fin de la vie, on l'a vu au Nintendo Direct l'autre jour.
Ah ça, oui.
Voilà, c'est vraiment une line-up de fin de console. Et oui, c'est reprendre, partir en cinquième génération, soit pour clore le chapitre, soit pour entamer nouveau, ce serait une bonne chose, je pense, avant justement une vraie dixième génération, les belles festivités de 2026, s'y prévoir quelque chose pour
les
ça.
Les 30 ans.
Les 30 ans, ouais, déjà. Donc oui, à mon avis, on est en train de rentrer dans la nouvelle ère d'Unis et j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose de bien. Si c'est pour refaire comme Diamant Étincelant, Perle Scintillant, je préfère qu'ils fassent rien du tout, honnêtement.
Oh, honnêtement, je cracherais pas dessus parce que j'aime tellement cette génération que la refaire à l'identique en gardant le concept du « on reprend que les Pokémon de cette génération », c'était quand même assez osé et j'ai envie de revivre ça. Ça peut être assez cool. J'ai vraiment envie de voir ça.
Mais en fait, personnellement, j'avais adoré à l'époque parce qu'il y avait que des Pokémon inédits. Mais là, en refaisant un remake, je sais que j'aimerais moins le jeu puisque tous les Pokémon de cinquième génération, je les connais très bien. Donc il y aurait plus de dépaysement, il y aurait plus cette petite touche qu'il y avait à l'époque. Et c'est pour ça, ouais. Si c'est pour avoir un DEPS,
enfin, en même temps, dans un remake, il n'y a pas beaucoup de dépaysement. Bon, même si effectivement
oui,
le remake de Ruby et Saphir était dépaysant dans le sens où on passe tout en 3D avec le vol sur le dos de la Tia, ce genre de choses. Enfin, il y avait quand même des
méga,
choses.
Il y avait énormément de choses nouvelles, ouais.
Ouais, oui, c'est vrai qu'il y avait les méga aussi pour mm-hmm. dépayser un petit peu. Voilà, faudrait qu'ils trouvent un petit gimmick. Ouais, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais bon. On verra bien, et c'est vrai qu'on ne sait pas encore ce qui sortira comme jeu Pokémon à la fin de l'année prochaine. On le saura peut-être certainement aux alentours de la fin février pour le Pokémon
de 2024,
Day, bien sûr.
Oui.
En attendant, en ligne de mire, le disque Indigo cet hiver, et juste avant, on aura Détective Pikachu qui sort sur Switch, je pense qu'il sort bientôt, il sort en octobre, 17 octobre je crois.
Oui, je crois que c'est ça.
Donc il y a des chances que Mali et moi vous en parlions lors de sa sortie pour vous en donner un petit peu notre avis. Quoique je crois que tu n'étais pas sûr de le faire, toi.
Oh, je pense que je me laisserai tenter, mais oui, on va dire je l'attends pas spécialement avec impatience. Voilà.
On verra ce que nous raconte Détective Pikachu. Eh bien, merci beaucoup Mali de m'avoir accompagné pour cet épisode.
Bah, merci à toi Lou de m'avoir invité et puis merci à vous toutes et tous de nous écouter.
N'oubliez pas de mettre des petites étoiles sur vos applis de podcast, de laisser des commentaires pour nous dire si vous appréciez ce podcast. N'oubliez pas non plus d'aller suivre Malison du coup sur sa chaîne YouTube. Et puis bien sûr, vous vous abonnez à ce podcast, donc le Poké Talk. On se retrouve très bientôt sur le mur des podcasts de West France et dans la rubrique gaming sur le site west-france.fr. À très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.
Salut.
Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.